D'ailleurs, on m'avait demandé si on allait chanter le chant d'ouverture du sutra et j'ai décidé que non. C'est un peu chaotique notre intégration ou suppression des chants et des différents moments, etc. Et donc, c'est pas très cohérent, disons. mais bon, c'est ok. Le discours ne change pas. Le cadre du discours change si on chante ce chant avant. Mais le discours en soi ne change pas. Et notre écoute, peut-être, va être plus affinée si on a ce chant avant. Peut-être pas. C'est une question ouverte. Tester. Peut-être demain on va chanter le chant et puis on verra si ça fait une différence. En tout cas, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Avec les chants ou sans les chants, écouter des discours, rester en silence, faire marcher d'une certaine manière, faire des heures d'assises. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Et quand je me posais cette question, ce matin, c'était comme, je me suis posé cette question comme pour prendre un pas en arrière. Parce que comme on a l'habitude de venir ici, enfin, certains parmi nous ont l'habitude de venir ici. Joe Sensei, évidemment, il a l'habitude de venir ici, mais c'est une maison de vacances, de week-end, de recevoir la famille, des amis, ou juste être là avec Delphine, ou tout seul. Donc lui, il a des expériences ici. Chacun de nous a des expériences ou non. Même si on est venu la première fois hier, on a déjà une expérience de ce que c'est ici. Et donc j'essayais de, quand je me posais cette question, j'essayais de me prendre le pas en arrière pour un peu comme, enfin un peu, c'est exactement comme cette phrase célèbre qui est sortie d'un Coran, hein, qui était « Quel est votre visage original avant que vos parents soient nés ?» Et est-ce que quelqu'un peut me donner un zafou ou un petit... Merci beaucoup. On a toujours les traces de... À un moment, on avait mis ça, je ne me souviens plus pourquoi. Pour identifier que ça appartenait à l'âge. Et donc, c'est une phrase qui est sortie d'un Coran, effectivement, où le sixième patriarche qui est poursuivi par les moines du monastère parce que... on apprend que le maître avait donné la transmission. Cet humble bûcheron qui s'appelait Wining et qui n'était même pas moine. Et donc les autres apprennent qu'il a reçu la transmission. Et le maître auparavant lui avait dit à minuit de partir. De fuir parce qu'il savait que les autres allaient être fâchés avec cette histoire. Fâché, c'est peu dire. Et donc, ils le poursuivent et ils ont appris que ça s'est passé dans la nuit et donc ils vont à sa recherche. Et à un moment, ils le retrouvent et il y a un des moines qui est le plus féroce qui confronte Wining et Wining pose le kesa, la robe, de Bouddha et le bol de Bouddha qu'on reçoit à la transmission, il pose là par terre et il dit vas-y, prends-les si tu peux. Et le moine n'arrive pas à les prendre. Et il s'effondre et il dit en fait, je ne suis pas venu pour le bol et la robe, je suis venu pour le dharma. Et donc, enseignez-moi quelque chose, mon frère, ou je ne sais pas. Et donc, Queen Anne dit, cette phrase qui est le sujet de notre intervention aujourd'hui, avant toute pensée de bien ou mal, quel est le véritable visage du moine Myo? Il s'appelait Myo. C'est la même chose que avant que vos parents sont nés, quel est votre vrai visage? Et dans l'histoire, le moine Myo a une grande expérience, mais il demande à Winang d'être son teacher, son professeur, son maître. Et Winang dit non, si c'est le cas, tous les deux, notre maître, c'est le maître dans le monastère où on était ensemble. Et donc, tu dois retourner là-bas. Et donc le moine Myo retourne dans le monastère et Winang disparaît dans les forêts, sur les chemins, dans les collines, les montagnes, etc., pendant de longues années. La raison pour laquelle je cite ce Coran, c'est parce que c'est cette phrase qui est clé. C'est « the original face », on dit en anglais. Le vrai visage. Qui est... quand on prend ce pas en arrière, c'est là où on peut le rencontrer. Donc j'ai pris ce pas en arrière en disant, en me posant cette question, qu'est-ce qu'on fait ici? Bien sûr, je sais ce qu'on fait ici. Bien sûr, je fais ça depuis 30 ans. Je sais très bien qu'on est venu pour s'asseoir, pour manger un oriyuki, pour faire tout un tas de choses. J'y pense même pas, d'une certaine façon. Mais c'est pas ça, quand je dis « qu'est-ce qu'on fait ici ?», c'est pas ça dont je parle. Ça reproche plus à la première fois qu'on a mis les pieds dans une retraite ou dans une salle de méditation. Tout est nouveau. Et on n'a pas tous ces idées, ces concepts de comment ça doit être ou pas être. Donc les trois personnes qui sont là, qui n'ont jamais été ici, ils ont plus de chances d'avoir une expérience directe de ce qui est que nous, parce qu'on est déjà habitués à ici. Bien que les trois personnes qui sont là pour la première fois, ils ont beaucoup d'expérience de méditation, de pratique, de zen, de discours, de façon de faire, pas faire, prosternation, chant, etc. Donc, c'est la première fois, et en même temps, ce n'est pas la première fois. Alors, quand je me suis demandé ça, qu'est-ce qu'on... Parce qu'en anglais, c'est... Mais en français aussi, tu veux. En anglais, si je dis « What am I doing here? What are we doing here? » Ça, cette implication de... c'est qu'est-ce que je fais ici, c'est... Qu'est-ce que je fais véritablement, hein? Qu'est-ce que je suis en train de faire, mais aussi, mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fais là? C'est comment ça se fait que je me trouve là? Ça, c'est, en anglais aussi, c'est comme ça. Et donc, quand je me suis posé cette question ce matin, j'ai fait tout un tas de notes. Donc, je ne sais pas si ça va me servir, mais je les regarde. Juste pour... me rappeler ce qui est venu. Ce qui m'est venu, c'est ce Coran de Original Face, le véritable visage, le visage originel, disons. M'est venu aussi cette citation que j'avais l'autre jour de Ram Dass qui avait dit, c'était en anglais, donc « The quieter you become, the more you hear ». Donc, plus on devient silencieux, plus on entend. Et je trouve ça, c'est très intéressant. Donc, j'essayais dans ma méditation de voir ce qui se passe avec les sons. Parce qu'il dit ça au propre et figuré. C'est-à-dire que c'est vraiment si on écoute, si on devient de plus en plus silencieux, on entend beaucoup plus. Mais c'est aussi d'une façon figurative. On entend, on voit, on sent plus, on sent plus ce qui est ici véritablement, ce qui est juste nu, avant qu'on ait mis tout un tas de choses dessus. Ce qui se passe généralement, c'est que on confonde les signes, les symboles, les concepts, les préférences, je fais une liste là des choses, les idées, les nombres, les mots. On confonde ça avec ce qui est. Et les sons sont formidables pour ça parce que les sons ne peuvent pas être traduits. Là, je peux traduire ce que j'ai écrit en anglais en français parce que c'est des concepts, c'est des signes, c'est des formulations, des sons qui ont été mis ensemble pour représenter quelque chose, pour faire un mot, pour représenter quelque chose que je traduire dans une autre... groupement de sons dans une autre langue pour dire quelque chose. Mais les sons en soi ne peuvent pas être traduits. Par exemple, tu peux sonner le gong. Pas les traductions.
C'est un do, non ?
Quoi ?
C'est un do, non ?
C'est
un... C'est un do.
Alors là, c'est pas moi qui peux dire ça. Mais c'est une très bonne une blague, mais c'est vrai. C'est ce qu'on fait. On va essayer de l'identifier. On va le situer. On va essayer de le recréer. On va dire, oh, il a bien fait ou il n'a pas bien fait. Ce gong n'est pas terrible, il y en a qui sont meilleurs. Mais il n'y a pas de traduction pour ça. Et on ne sait même pas, donc c'est, ce qui est intéressant, c'est d'écouter jusqu'à ce que l'on n'entend plus. Parce que c'est un peu comme cet son unique devient tous les sons. D'une certaine façon. Parce qu'après, il y en a plein d'autres. J'ai commencé à parler, on a rigolé, voiture qui passait, tout un tas d'autres choses qui vont émerger. Et donc, il y a aussi le Coran de Joshua qui était... toute chose retourne à le 1, et donc le commencer, mais où est-ce que le 1 retourne ? À quoi le 1 retourne ? Ben, on a l'expérience là, ça. Mais quand on commence à... Justement, est-ce que c'est un do? Est-ce que c'est... c'était bien fait ou non? Qu'est-ce que ça représente? D'où vient l'utilisation des gongs dans la méditation? Où est-ce qu'on a eu ce gong? C'est mieux dans une pièce qu'ici? Toutes ces choses-là, bah, on passe complètement à côté du véritable visage du gong. Et c'est comme ça, de là, de cette confusion entre gong et concept, idées, symboles, et signes, tout ça, dès qu'on commence à faire tout ça, c'est comme si c'est une transgression contre notre premier précepte qui est « je fais le vœu de ne pas tuer ». Parce que dès que je commence à mettre les sons, et les symboles, les signes, les mots, etc., je suis en train de tuer le gong. Le son. Je vais et je fais ça avec le son du gong. Je fais ça avec la retraite. Donc, si je me pose cette question, qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai une meilleure chance de ne pas détruire mon expérience de la retraite. Je commence, je prends le pas en arrière et c'est ok. C'est juste ça. C'est pas bien, c'est pas super, c'est bien qu'on peut dire « Oh, c'est une belle journée, on peut apprécier la journée. » Mais quand on va se promener dans la forêt, j'encourage, donc évidemment c'est en silence, nos promenades, mais je vous encourage d'essayer de prendre ce pas en arrière et ne pas mettre les étiquettes sur ce qui est vu, ce qui est entendu, quel chemin on prend, quelle chaussure j'ai, de ne pas, et même pas un symbole ou idée, juste, vraiment juste être dans l'expérience directe de ce qui est là. Je dis ça dans une promenade parce que ça va nous sortir de ce cadre-là. Et ce sera un silence et c'est un autre environnement. Et il y aura beaucoup de monde, enfin peut-être pas, mais il y aura d'autres gens. C'est sûr. Et donc, comment on agit là-dedans? Parce qu'on peut dire, ok, le silence, c'est facile quand il n'y a pas beaucoup de interférences, disons. Mais c'est notre tête qui dit que c'est une interférence, les autres, dans la forêt. Tout dépend de notre... si on prend le pas en arrière ou non. Évidemment, c'est peut-être plus facile de prendre le pas en arrière si nous n'avons pas toute une sorte de stimulation sensorielle autre que juste être dans la forêt avec les arbres et le soleil et les insectes et les animaux. Mais on a plein de... Oui, donc j'ai, dans mes notes, je vois, j'ai noté plein de choses. Donc, c'était cette part en arrière, le véritable visage. Mais il y en a plein d'autres corps. Hein. C'est demeurer dans le non-demeur. Il y a the true person of no rank. Donc, la personne vraie, sans grade. Sans statut. Qui es-tu sans statut? Qui es-tu véritablement? Il y a le... évidemment, la nature de Bouddha, Mu, ça, le dernier mot de Zen, il y a tous les courants pointent vers ça. Vers cette retour, prendre ce pas en arrière, qu'est-ce qui est? Je dis les corons parce que ça fait partie de ma pratique depuis toujours, mais tout le reste aussi fait ça. L'oryoki, tous les rituels qu'on a, la méditation en soi, ce n'est que l'art de Comment on dirait en français? Silencing the mind. Mettre en silence.
Faire taire.
Quoi?
Faire taire,
peut-être. Oui. Toute cette dans la tête. Mais pas seulement, parce que cette clac-clac-clac-clac-clac dans la tête, c'est pas seulement du bruit, quand je dis silence, c'est faire taire, c'est pas seulement du bruit. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est cette activité qui est de identifier, catégoriser, trier, projeter, saisir. Donc c'est très, je vois là, dans la demi-heure avant cette méditation, mais j'étais constamment en train de projeter, saisir, revenir à penser à je ne sais pas quoi, les trucs, mais complètement qui n'avaient aucun intérêt, enfin, par rapport à ce qui se dit ici, juste maintenant. Mais c'est formidable. C'est formidable que j'ai eu cette occasion de me rappeler, ah oui, non, c'est juste ça. Je reviens. La respiration est formidable pour ça, mais les sons aussi. C'est pour ça qu'on dit souvent dans cette pratique aussi, écouter les sons. Et juste, c'est très concret en fait. Écouter les sons, ici, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Mais souvent, on va faire ça et on va après faire un inventaire de ce qu'on a entendu. Mais ce n'est pas ça le but. C'est pas de... j'enseignais aux enfants, autrefois, quand on faisait des retraites pour les enfants, enfin les families, autrefois dans l'un, et parfois on avait plus d'enfants que d'adultes dans les retraites. Parce qu'il y avait des familles nombreuses, ton maître, avec ses 4 enfants, ses 3 enfants. Donc... et il y avait souvent beaucoup d'enfants. Et donc, on faisait plein d'activités pour eux. On les amenait à la piscine, faisait des arts plastiques. Ils faisaient toujours une pièce de théâtre qui présentait à la fin de la retraite pour les adultes, etc. Et moi, je donnais toujours un petit atelier de méditation pour les enfants, qui était un défi parce qu'il y avait plusieurs langues. Très peu pouvaient parler anglais en plus de leur langue. Bien que, évidemment, les Hollandais étaient beaucoup plus habiles avec ça. Les enfants hollandais pouvaient beaucoup parler anglais. Donc, souvent, il y avait des parents qui devaient avoir un parent, surtout si c'était un petit. Un petit qui avait 4-5 ans, il fallait que leur parent soit là aussi pour traduire, etc. Et donc, je donnais à eux souvent, parmi les exercices, c'était les sons. Écouter les sons, et après, on faisait un inventaire de ce qui était entendu. Et donc, c'était une espèce de compétition. Qui entend le plus? Qui a entendu un son que les autres n'ont pas entendu? Mais le but était qu'ils soient attentifs, qu'ils prêtent attention à ça, pour pouvoir être plus présents ici. La respiration, on faisait aussi avec des cailloux. Et ça aussi, ils adoraient ça, mais ça aussi c'était une compétition pour qui pouvait déplacer le plus, et donc ça donnait des respirations. J'ai fait 10. On faisait des choses comme ça, mais pour eux c'était intéressant de faire l'inventaire, mais pour nous, c'est pas ça. On peut croire qu'on est plus évalué, on a plus besoin de faire un inventaire. Mais pour nous, c'est plus important de ne pas faire un inventaire. De juste être avec des sons. Et en fait, si vraiment on fait ça, il y a la possibilité d'avoir l'expérience que entre celui qui écoute et le son, il n'y a pas de séparation. Entre celle ou celui qui sait ou qui reconnaît Et ce qui est reconnu, il n'y a pas de séparation. Entre le sujet et l'objet, il n'y a pas de séparation, c'est un. Entre celui qui ou celle qui respire et la respiration, un. Entre l'univers et la respiration, un. Pour ces expériences-là, on doit se débarrasser des étiquettes, des concepts, des signes, des numéros, des catégories, etc. Se débarrasser dans le sens de ne pas le faire. De renoncer à cette activité, disons. Pendant les 30 minutes, etc. Parce qu'on va approfondir notre conscience, awareness on dit en anglais, on va approfondir notre awareness des sons, de soi-même, des autres, de la respiration. Plus ça s'approfondit, cette conscience, moins il y a de différence, moins il y a de séparation entre ce qu'on expérimente et celle qui expérimente. Il y a le titre de ce livre de Mark Epstein qui est, il a toujours des super titres, hein. Thoughts Without a Thinker. Donc je crois qu'en français c'est Pensées sans penseur. Ils ont traduit de la même façon. Ouais.
Tu peux répéter s'il te plaît.
Pensées sans penseur. Donc plus on approfondit cette expérience de ne pas tuer le son avec nos idées, nos concepts, nos préférences, tous les mots, ou même ce que ça symbolise. Donc souvent, il y aura un gong comme son pour donner une ambiance de quelque chose de spirituel, ou dans un film, ils vont mettre un gong. Ça devient un symbole de quelque chose. Mais quand c'est un symbole, ça ne veut plus rien dire, en fait. Effectivement, sont utiles les symboles si ça nous amène à aller de ce qu'il y a avant un symbole. C'est ça qui est le principe, entre guillemets, des symboles. L'utilité d'un symbole, c'est que ça nous ramène à quelque chose, une expérience de quelque chose. Alors, dans si je reviens à ce courant que j'ai cité au début de Renang, on ne sait pas pourquoi, à cet instant-là, quand Renang avait dit ça, ce n'était pas exactement comme j'ai formulé là, le vrai visage avant que tes parents sont nés, mais c'est avant une pensée de bien ou mal. Parce que c'est la même chose, c'est le confronter avec les dualités, et donc avant la dualité, qu'est-ce qu'il y a? Donc la dualité de bien ou mal, le concept de bien ou mal, le concept de mes parents, le père et mère, et le concept de naissance. Avant ces concepts, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça qui est dit. Alors, on ne sait pas pourquoi, dans cette instance-là, dans cette histoire, à ce moment-là, le moine Mio a cette expérience où il s'effondre, il est en sueur, il a une ouverture vers avant. Et même avant, c'est un concept. Donc, on utilise. C'est un symbole avant pour nous ramener à une expérience de avant. On ne sait pas pourquoi, à cet instant-là, il a ça. Et on peut avoir une idée que c'est parce qu'il a fait taire son esprit. On peut peut revenir à ce truc de silence, etc. Mais il y a des cas, des choses qui se passent quand il n'y a pas de silence. Un maître de... Le premier successeur de Bernie Glassman, Peter Matheson, qui est devenu un grand écrivain, qui a une expérience de cet ordre sur un navire. Il était dans la marine américaine dans le Pacifique du Sud lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il est sur un navire de guerre et il a une expérience de l'unité, de... Je ne me souviens pas exactement, il le décrit dans un de ses livres. Est-ce que quelqu'un a lu ce livre, il connaît ? Non. Mais c'était une ouverture vers avant les concepts, avant les Japonais, avant les Américains, avant Pearl Harbor, avant guerre et paix, avant tuer et mort et naissance, avant tout ça. Il est sur un navire de guerre. Au milieu du Pacifique du Sud. J'avais raconté cette histoire l'autre jour. C'est aussi un truc de guerre. Je ne me souviens pas si c'était dans un groupe d'études ou si c'était dans un talk. Ou c'était au Portugal. Non. Où il y avait un soldat dans la guerre du Vietnam qui était... C'était pas du tout son spécialité, c'était un lieutenant, je ne sais pas, il avait une petite équipe d'hommes qui avait une autre spécialité, mais il y avait, les Américains avaient largué des bombes de napalm sur un village, quelque part. C'était un GI, un soldat américain. Et ils avaient besoin qu'une équipe aille évaluer la situation pour établir l'efficacité de leur... leur activité, quoi. Et donc, il a amené ces hommes-là, bien que ce n'était pas du tout son travail normalement. C'était un soldat, hein, il était entraîné, comme tous les soldats, etc. Et en arrivant sur le lieu, il s'effondre en sanglots. Et cette expérience... Pendant que les autres, ils étaient là en disant « Ok, on a trouvé quatre villagers, corps de villagers charbonnés, on a trouvé des, je sais pas, les bétails tués, on a découvert un cache d'armes, probablement pas d'ailleurs, probablement ils n'avaient rien trouvé de cet ordre-là, etc. » Tant les autres ils étaient en train de faire ça, lui, il s'est effondré en sanglots. Et à partir de ce moment-là, sa vie a basculé. On peut dire que dans cet instant-là, il a vu ce qui est. Qui était, bien qu'il était bien entraîné en tant que soldat, de ne pas voir ce qui est. Sinon, il ne pouvait pas être un bon soldat. Et... À cet instant-là, il a vu. Il a une expérience directe de ça. Sa vie a basculé, je ne sais pas, dans le texte que j'ai lu sur lui, ils ont sauté quelques étapes, donc je ne sais pas comment il est rentré. Mais il est devenu, évidemment, un militant pacifiste. Je dis évidemment, parce qu'on peut imaginer que c'est la suite logique de ça. Et dans les années 80, donc, une quinzaine d'années plus tard, probablement, ou peut-être pas, c'était peut-être une dizaine d'années plus tard, il militait contre les Américains ont continué leur débâcle en donnant des armes aux rebelles contra dans le Nicaragua, dans l'Amérique centrale, pour... C'était des rebelles contre un régime, enfin, un gouvernement communiste, disons. Et donc, évidemment, pour les Américains, c'est pas possible ça. Et donc, ils donnaient des armes. Et donc, cet homme et beaucoup d'autres militants protestaient contre ça. Et lors d'une manifestation où ils essayaient de bloquer un train qui amenait des armes au contrat, le train lui a roulé dessus et il a perdu ses jambes. Cet homme qui était un soldat et puis devenu ça, il a perdu ses jambes. Ça ne l'a pas changé, sa vie. Il a continué. Bon, évidemment, il a dû être... Il a été amené à l'hôpital, etc. Mais dès qu'il a pu, il a continué sa vie de pacifiste, militant. Tout ça à partir d'une expérience qu'il a eue au milieu d'un champ horrible, un champ de toutes les horreurs de la guerre et des folies de notre espèce. Donc on n'a pas besoin d'être dans une salle de méditation pour revenir à ce qui est véritablement, ce qui est tu, ce qui est ici maintenant, toutes les formules qu'on veut mettre hein, sur ça. Ce qui est ton véritable visage, qu'est-ce que c'est ton vraie nature, tout ça. Le sixième patriarche, tiens. Lui, c'était en entendant sur un marché quelqu'un qui récitait le sutra du diamant.
Pas drôle.
Bah, je sais pas, tu vois, on sait pas. Je me souviens pas, c'est précis. Est-ce que quelqu'un sait quelle phrase c'était? Non. Quelqu'un se souvient? C'est raconté souvent dans les histoires. Mais bon, peu importe. Il était là à vendre du bois sur la place du marché, il entend ça. Un type qui est complètement inculte, il est très... Bon. On ne sait jamais, quoi. Il faut juste être là. Parce qu'il se passe, c'est que... quand on retourne à cette silence, ou à cette véritable nature, ou ce véritable visage, etc., le voile qui obscurcit ce qui est se lève. Et en fait, on voit qu'il n'y a jamais eu de voile, mais c'est comme ça qu'on expérimentait. Et il y a une voile, parce que... Il y a une voile et il n'y a pas une voile, mais... Il y a une voile, le voile, c'est nos attachements, nos concepts, nos idées, tout ça. Et on voit aujourd'hui ce qu'on fait à notre maison, qui est notre planète. On le tue parce qu'on a confondu le véritable ce qui est avec les symboles, les acquisitions. Les nombres, les idées, les préférences. Comme dit Joanna Macy, il s'agit juste de renoncer à ce qui nous fait du mal. Mais on a du mal à renoncer à ce qui nous fait du mal, parce qu'on pense que ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des... J'ouvre à d'autres sons, plutôt que juste le son de ma voix. Peut-être ça fait résonner les choses, peut-être vous avez des questions. Oui, Joël.
Bon, ça fait résonner tout de suite. Au bon sens du terme, que j'écoutais avec des amis la semaine dernière le Requiem de Verdi à l'Opéra de Montpellier, et j'ai beaucoup de mal à pleurer en général, et il y a des morceaux de Verdi dans le Requiem, enfin, pas seulement Verdi, mais dans ce Requiem en tout cas, qui me font pleurer chaque fois, parce que chaque fois qu'il y a tous les instruments et tous les choristes qui chantent, ça, et là, donc, c'était l'image du son que tu voulais décrire, quoi. Donc là, c'est des rares moments où je suis en connexion complète avec le son. Voilà, c'est ce que je voulais mentionner.
Oui. Très bon exemple. Parce qu'on peut tous identifier avec ça. Et c'est les moments où il n'y a pas de traduction. Il n'y a pas de... C'est pas logique, c'est pas conceptuel. C'est expérience directe. Et même, donc après, ce qu'on va faire, c'est... Ah oui, donc le Requiem de Verdi, c'est meilleur que le Requiem de Mozart. Ou, parce que j'ai eu cette expérience-là, mais c'est même pas ça, c'est pas Verdi, en fait. C'est, oui. Oui. Oui, magnifique.
C'est juste parce que ça rebondit. J'ai vu un concert la semaine dernière, et j'ai jamais assisté à un concert comme ça. C'était un pianiste, un grand pianiste russe. Alors, je crois que c'est Dimitri Goborov, enfin, je ne sais plus exactement son nom, moi je n'avais jamais vu. J'ai jamais vu, c'était au Théâtre des Champs-Élysées, c'était 1h30 de concert, j'ai pas entendu une personne tout. Enfin, je crois que j'ai jamais assisté à un concert où il n'y ait aucun bruit de la salle. Oui. La salle a disparu. C'était totalement inintéressant de même, de, visuellement parlant. C'est-à-dire que ce monsieur, il a, c'est sûr qu'il n'a pas une équipe de communication, parce qu'il n'a pas dit un mot, il était habillé, c'était terrible. Ah, visuellement, c'était folle. Enfin, d'ailleurs, tout le monde avait les yeux fermés, j'ai jamais vu ça. Je regardais autour de moi, tout le monde avait les yeux fermés. En plus, moi j'avais un mur derrière, donc je me suis collée au mur, j'ai fermé les yeux. Et vraiment, voilà, il y a eu que la musique pendant 1h30. Il n'y a pas un gars qui a toussé au Théâtre des Champs-Élysées, c'est du jamais vu. Pas un portable qui a sonné, enfin, il y avait vraiment... Tout le monde a disparu pour laisser place à la musique. Et même ce monsieur, il a disparu, il était tellement... Je crois que sa musique, elle était plus forte que lui, en fait. Mm. Sa musique, elle le dépasse, en fait. Mm. Et du coup, c'est comme si tout avait été absorbé dans un trou noir et qu'il restait que la musique. Étonnant. Mm. Oui. Et de la même manière, il y avait le programme, c'était Purcell et Mozart. Et je me suis dit, j'adore Purcell, alors vraiment Mozart, ça va vraiment me saouler. Et bien sûr, Mozart a tout explosé. C'est-à-dire que quand il a commencé à jouer Mozart, c'était... Je n'avais jamais entendu Mozart comme ça, en fait. C'était... Comment je pouvais dire une chose pareille avant d'arriver, enfin,
attends, tu avais dit, je voulais Purcell, mais pas Mozart.
J'avais dit, bon, moi, je vais écouter Purcell, mais je crois que je partirai avant, parce que Mozart, c'est bon, merci, les gars. Enfin, voilà. Et puis, ben, Purcell, c'était bien, mais quand Mozart est arrivé...
Tu t'écoutes.
Ah, merde, là.
C'est parce qu'on a... Et quand... Voilà, et quand Mozart est arrivé, c'était absolument splendide.
Trop bien.
Ah oui. Donc.
Ouais. Bon, voilà, c'était juste parce que c'était très très étonnant comme concert.
Oui, des exemples de... Et probablement on a tous...
Et pour revenir dans les concepts... C'est un auteur que j'adore, c'est Philippe Descola, un anthropologue qui a vécu plusieurs années chez les Achuars, une ethnie en Amazonie. Et il a fait un bouquin là, qui est super, ça s'appelle Ethnographie des mondes possibles avec un dessinateur italien, Alessandro Pignocchi. Et il discute que. D'être, il parle de l'économie aujourd'hui, de l'effondrement possible à venir et tout ça. Il dit qu'en fait, on peut se déshabituer de tous les automatismes de consommation que l'on a. Et il dit, quand j'étais chez les Achuars pendant donc quelques années, pourvu qu'on puisse manger et être à l'abri quand il pleut beaucoup, le reste, on se déshabitue très facilement. Mais il y a deux choses qui m'ont manqué, c'était la musique et la lecture. La musique, parce que bon, c'est ce qu'on vient de dire, et la lecture, parce que c'est la parole, c'est quand on lit, on parle avec les gens. Bon, lui, il a appris petit à petit le langage des Achuars, mais bon, c'était son travail, c'était aussi intéressant. Mais voilà, il citait donc deux choses qui lui manquaient, tout le reste, le confort, tout ça, on s'en déshabitue très vite, mais la musique et la lecture, ça c'était deux choses.
Oui, on est, et on a chacun probablement des choses qu'on veut pas.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'on se déshabitue vite, en fait, même ici, quoi.
Ouais.
C'est des habitudes de notre maison, de notre habitude, ce qu'on mange, comment on s'habille, qu'est-ce qu'on fait normalement le vendredi matin. Parfois, c'est avec joie. Moi, je suis très contente de ne pas faire ce que je fais d'habitude le vendredi. C'est pas parce que je donne beaucoup d'entretien le vendredi matin, hein, c'est pas ça. C'est juste que c'est bien de faire d'autres choses. Donc, effectivement, il y a d'autres choses qui nous manquent. Et qu'est-ce qui se passe quand on va vraiment au-delà, vraiment derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais dire quelque chose?
Ouais, je me suis rendu compte, une des premières fois où je suis revenue de Vimoutiers, qui m'avait ébloui les premières retraites, on arrive sur la porte d'Orléans, je sais pas, j'étais en voiture, avec les panneaux, tous les trucs qui a illuminé, les panneaux qui bougent, je me suis dit, mais en fait, les citadins, ils s'emmerdent. C'est pour ça qu'il y a tout ce « achetez-moi », parce que bon, il n'y avait rien à Vimoutiers, ni à acheter, ni à faire, sauf méditer. Un oiseau qui passait de temps en temps, mais une fois qu'on est dans cette ambiance-là, le reste, ça semble, c'est un peu comme un cabaret constant. Achetez-moi, jetez ça, venez ici, et tout le temps, ça bouge tout le temps. Les lumières et les panneaux là qui présentent plus de pub, mais ça m'avait frappé à la, vraiment frappé à la gueule combien c'était du surfait, quoi.
C'est pas seulement les citadins, hein. Je pense que c'est l'être humain qui, qui essaie de s'occuper, de remplir, d'accumuler, qui s'identifie avec des signes et des symboles et des concepts. Quoi. Ouais.
On a quitté le rural pour aller à la ville parce qu'on s'emmerdait à la ferme.
Et maintenant on fait le contraire.
Oui, ouais, maintenant on fait le contraire.
Je ne sais pas ce qui se passe. Parce qu'on va toujours amener... Qui a dit ça? Je crois que c'est Alan Watts qui disait... un truc du genre... vous pouvez aller chercher le zen à la montagne. Parce qu'à l'époque de Alan Watts, dans les années 50, c'était cette image de... un ermite à la montagne qu'il fallait monter pour aller trouver le zen en haut de la montagne. Vous pouvez aller chercher la montagne, le zen dans la montagne, mais vous allez toujours amener trois avec. Donc, que ce soit à la montagne, que ce soit dans la vallée, que ce soit chez soi, que ce soit dans un eau, c'est toi qui es là. Et tu peux te trouver partout, ton véritable visage. Tu n'as pas besoin d'aller en haut de la montagne avec un asset classique. Qui s'est retiré du monde. On n'est pas obligé, ce n'est pas nécessaire. C'est possible. C'est pour ça que je dis oui, en ville, il y a tout un tas de choses, mais il y a tout un tas de choses partout.
Mais ici, par exemple, tu vois, les choses qui peuvent qui t'enferment dans des concepts et tout ça. Moi, ce matin, quand on est parti en Kinine, là, dehors, tout d'un coup, j'ai été révoltée. Je me suis dit, mais ils ont de la chance, les gens qui habitent là, ils ont vraiment de la chance. C'est dégueulasse. Et tout d'un coup, j'ai eu la vision des HLM, tu vois, avec les gens qui habitent dans les HLM et qui ne peuvent pas bénéficier d'un truc comme ça. Puis une espèce de révolte qui m'est montée. Je me dis, mais c'est dégueulasse, ils ont vraiment trop de la chance. Puis après, j'ai laissé tomber. Mais si tu veux, il y a vraiment... Ça, c'est vraiment les trucs qui peuvent t'embarquer dans des... Tu vois, dans des...
Ah oui.
Voilà.
Exactement. Exactement. Plutôt que de juste apprécier ce qui est. Et oh, waouh! je suis heureux pour eux. Je suis heureuse qu'ils aient ça. Ben, je ne sais pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas les inégalités et qu'on n'apprécie pas qu'on peut aider ceux qui sont... qui en ont besoin, etc. Mais quand on est figé dans les concepts et les idées, on ne va pas aider ceux qui ont besoin et on va condamner ceux qui n'ont pas assez. Je ne sais pas, on se perd dans les idées, les concepts. Ou que Mozart est moins bien que Purcell, ou le Requiem de Verdi est mieux que le Requiem de Fauré. Pour moi, le summum du Requiem, c'est Fauré. Parce que j'ai eu une expérience, la plus profonde expérience de ma vie, c'était à la suite de ça. Donc, pour moi, c'est l'ultime. Mais c'est absurde de dire que c'est l'ultime.
Ouais. On rejoint ce que tu disais au début de ton intervention, quand tu disais qu'on était deux ou trois personnes... à venir à la Séchine qui n'était jamais venue ici et qui appréciait le lieu, donc apparemment, parce que moi j'ai eu la même réaction, pas la même réaction, mais je disais c'est magnifique ici d'habiter là dans les arbres, quel privilège, machin, truc. Alors que vous, qui, les autres qui êtes venus déjà plusieurs fois, et bon, je vois encore plus, bon, vous êtes bien, mais vous y pensez plus parce que c'est normal, quoi.
Si, on continue à les
détester. On continue à les détester.
Et on regarde le mobilier qu'ils ont changé depuis. Hein? Le beau barbecue.
C'est vrai, hein? c'est fou. C'est très vite, on s'habitue. Ouais. C'est pour ça que Suzuki, quand il avait dit Beginner's Mind, il a toucher un truc. C'est pas le premier qui a dit l'esprit du débutant, mais c'est lui qui l'a popularisé, cette notion de l'esprit du débutant. Parce que, oui, comme Adrien ajoute, dans l'esprit de l'expert, et donc nous, les experts qui connaissons bien le lieu, ça va s'affiner. On va dire, oh, tiens, cette chaise n'était pas là. Ou ils ont un nouveau carafe. Ou je sais pas.
C'est marrant ce que tu dis, parce que moi, je ne sais plus avec qui j'étais hier, et j'étais dehors, et je me disais, ah, il y a plein d'arbres. Et il y a quelqu'un à côté de moi qui a dit, oh, mais ils sont très grands, ces arbres. Et du coup, j'ai suivi le tronc, et je me suis dit, ah, mince, ils sont vraiment très grands, les arbres. Non, mais c'était bizarre de... Je sais pas, c'était une découverte. En fait, il y avait des grands arbres. Alors que j'étais dans les arbres, je me posais pas de questions. Et le fait d'entendre, ah, mais ils sont très grands, du coup, c'était bizarre cette histoire. Et du coup, ce matin, je me suis levée, je fais, ils sont vraiment grands, les arbres. Ce truc de. Maintenant, il y a des grands arbres. C'est très étrange. Voilà. C'est plus des arbres, c'est des grands arbres. Des arbres très hauts.
Où je me souviens, une fois, quand on était ici, il y avait le cri d'un oiseau, je crois, je ne sais pas. Et Christine nous a fait un remarque sur l'oiseau, que c'était le coucou, je crois, qui, en fait, tout le monde trouvait que c'était très joli, le coucou. Et Christine nous a dit, ah oui, mais le coucou, est pas gentil, il envahit les nids des autres. Etc. Et donc ça changeait, c'était un peu comme des grands arbres, c'était oh. Plutôt que juste rester avec le son du coucou. Même, je ne savais même pas que c'était le coucou, le son c'était, parce que je connais très mal les sons des oiseaux, mais très vite on va faire des choses comme ça. Et Christine n'a pas dit ça dans l'esprit de gâcher notre plaisir du son, hein. C'était juste un remarque. Oui.
Moi, la première fois que je suis venue ici, il y a un coucou qui s'est mis à faire son coucou là, et j'arrivais pas à penser à autre chose. J'ai compté, et je sais encore, il a fait 57 fois coucou. J'avais pas démarré au début quand il me disait, mais attends, mais j'ai laissé passer au moins 20 coucou, donc on est à 77. J'avais une comptabilité de coucou à la fin. N'importe quoi. En fait, ils sont coucou.
Donc, regarde tous ces exemples, et c'est sans fin, les exemples de ce qu'on fait. Quoi. C'est merveilleux, c'est très riche. Est-ce qu'on peut entendre tout ça et dire « Ah oui, ok, apprendre de ça et prendre ce pas en arrière. Retourner à le silence, comme on dit, ou retourner à la maison. C'est compliqué en français parce que ce mot « home » en anglais est parfait. Mm-hmm. Hein. Mm-hmm. Mais,
rentrer chez soi.
Oui, mais tout de suite quand on dit ça, chez soi, donc ça implique un soi.
Alors que home, c'est, oui. pas, c'est plus que chez soi.
Quoi ?
Home, c'est plus que dire chez soi. C'est plus vaste.
C'est cosy, cosy quand même. Hein.
Oui, et c'est comme ce n'est pas particulier, c'est pas chez nous. Ça peut être, par exemple, dans un jeu de baseball, il y a quatre bases et les bases principale, ça s'appelle home. C'est pas une maison, c'est pas chez soi, mais c'est home, c'est un concept autre que home. Encore une fois, c'est l'histoire d'un concept. C'est comme des Portugais disent que c'est impossible de traduire saudade, que c'est quelque chose qui est uniquement, que c'est impossible de traduire, et probablement, mais probablement on peut tous le reconnaître. On n'a peut-être pas un mot pour ça, mais on reconnaît. Donc, avant les mots home, avant les mots chez soi, c'est quoi ? Avant les mots original face, ton nom, c'est quoi ? Tu veux lui dire quelque chose ?
Ouais, c'est un peu comme si on laisse le cerveau de côté, en fait, parce que c'est ce qu'il fait d'habitude.
Oui.
Dès qu'il y a un truc, il connecte quelqu'un qu'il connaît déjà, et on compare, et on fait des concepts, et c'est tout le temps ça. Et...
Donc on lui demande de faire d'autres choses, disons.
Oui. On lui demande de faire d'autres choses.
De se mettre au service d'autres choses, oui. De ne pas se mettre au service de cet monstre qui est créé, conceptuel, etc., mais au service de qui on est véritablement. Et il en est capable. Il en est capable. De dire que, souvent on dit, c'est pas bien de penser alors. Mais c'est juste de demander de faire autre chose, de regarder ailleurs. Et de ne pas comptabiliser, effectivement, de mettre ça, de dire, ok, c'est très bien ça, parce que c'est très utile, effectivement. À certains moments, par exemple, il faut savoir combien de courgettes il faut pour 11 personnes, il faut compter, il faut voir une recette, il faut savoir combien de temps il faut cuire la pasta. Bien qu'on ait une expérience au Portugal, où Vincenzo, qui ne savait pas cuire le pasta, ils l'ont laissé tremper dans l'eau, parce que c'était cuit à l'avance, et là, c'était ça. Hein.
Elle avait cuit une heure avant.
Oui, elle avait cuit le pasta avant, et elle l'a laissé dans l'eau, parce qu'elle ne savait pas. Donc, c'est utile de savoir qu'il faut cuire telle pâte 8 minutes, et puis les goûter, etc. Mais ce n'est pas ça, le pasta. Ce n'est pas ça l'expérience de manger le pasta, de goûter le pasta, de le faire. C'est pas ça. Mais ça aide. Ça peut aider. Regarde, compter les respirations. Donc on met cet esprit qui compte au service de notre éveil. L'idée, c'est qu'on va stabiliser l'esprit en comptant la respiration. Donc, on se sert de cette capacité qu'on a. Formidable outil, l'esprit, le brain, le thinking mind. Formidable. Hein? On dit, ok, compte ces respirations. Donc, mettre au service ce comptage, ces numéros, ces symboles, pour nous aider à passer au-delà, passer avant, disons. Quelque chose comme ça. Comme dit Mathieu Ricard, qui est un scientifique, hein, qui était un grand scientifique, il dit la tragédie, c'est que l'homme qui a la capacité de faire les bombes nucléaires, s'il mettait cette sagesse à guérir les maladies, à distribuer les ressources, de ne pas gaspiller et détruire, s'il mettait, parce que c'est possible, cet esprit a cette capacité. Mais malheureusement, c'est détourné à la base de cette... C'est détourné à la base, quoi, pour compter, augmenter, calculer, détruire, en fait.
Moi, je me demandais la dernière fois, quand on a été, pas cette fois-ci, mais quand on a été se balader l'autre fois avec toi, je suis rentrée dans un truc de « Ouais, il marche plus vite que moi, regardez, les salauds, Et après, je me suis dit « Bon, mais c'est un, enfin, visiblement, tu es dans une compétition où tu perds, hein, parce qu'il n'y a personne derrière toi. Donc, compétition, pourquoi un tout ?» Qu'il y a aussi, dans, entre Verdi et pas Verdi, c'est toujours pour prouver que je suis la meilleure, je suis la pire, je suis quelque chose dans cette histoire. Il y a toujours, me semble-t-il, quand j'inspecte le truc, c'est pour prouver que je sais plus où je sais moins, je fais plus où je fais moins, où je me place dans l'histoire.
Oui, ouais. Moi. Ouais. Mm-hmm. C'est ça. C'est pour ça que je dis toujours, c'est ça le principal. Hein. Revenir à qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui suis-je ? Parce que c'est de là où tout... Oui. Et donc, dans cette occasion-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as laissé tomber ?
Le fait que j'étais tant en compétition, là, parce que, bon, je sais que je suis en compétition dans d'autres domaines, mais bon, là, c'est pas grave, tout le monde a 20-30 ans de moins que moi, bon, il marche plus vite... Mais c'était la colère, haine, machin. Je me suis dit, j'ai commencé à regarder juste après. Je me suis dit, bon, tu manges. Si tu arrives en haut déjà la colline, on est content. En attendant, laisse tomber la marche, regarde la compétition. Enfin, je ne m'en rendais pas compte. Mm-hmm. Je ne m'en rends pas toujours compte, je le voyais aujourd'hui.
Bien sûr.
Quelqu'un a une meilleure place que moi. Ou à moins bien place et moins bon place, là je vais les défendre et je vais les devenir. Enfin, il y a toujours un calcul pour savoir comment je peux être la reine de la fête, quoi.
Oui, et ça rejoigne ce qu'on avait dit à propos de son et le un et le multiple. C'est que, et même le truc de Mathieu Ricard de mettre la science au service de l'unité plutôt que à la division. Et quand on est en compétition, on est vraiment dans la séparation. Et toute la pratique, c'est revenir à l'unité, revenir à un. Parce que, en fait, la bombe nucléaire, c'est les divisions de l'atome. Je crois, non, c'est pas ça.
Ouais, mais si elle explose, on sera tous. Hein.
Mais regarde, toute cette connaissance qui est mise vers la séparation, vers la division, plutôt que vers le tout, vers le un. Donc c'est.
Ouais, mais nos arrière-grands-pères, c'était des grands chimpanzés. Moi, quand j'amenais les élèves au zoo, que des singes. Ils ne voulaient pas voir le reste. Parce qu'ils se voyaient. C'était vraiment, on regarde. C'est Hervé.
Mais je ne pense pas que les chimpanzés se tuent entre eux. Hein. Je pense pas
qu'ils se
tuent.
Ils se bagarrent quand même.
Peut-être, oui. Mais ils ne vont pas se
tuer. Ah non, mais ils sont plus raisonnables que nous. Ouais. Mais je veux dire, pour moi, il y a cet esprit-là dans mon... Poussez-vous, il faut que je passe devant, quoi.
Ah oui. Dale, tu...
I don't know. I have to say it in English, I think, and I'll translate it for... I thought for me, it seems much easier quand je médite, je vais essayer. C'est en moi en fait que je sens cette difficulté en fait de le moi qui est bien ou le moi qui veut bien et le moi qui ne veut pas bien et ne veut pas faire. C'est plus facile pour moi de me sentir uni avec le monde extérieur que en moi. C'est ça qui m'a absolument abasourdi, mais tout le temps, souvent. Et
comment ça se en toi quand tu dis ça, tu veux dire qu'il y a des parties de toi que tu veux pas ou les comportements ou comment ça se...
Oui, mais pas que, mais c'est une sorte d'indescriptible le moi qui a été créé, que j'ai créé, même en tant qu'enfant, en grandissant, qui reste avec moi, la partie qui est moi, mais que je n'ai pas j'ai pas fait consciemment, les parties que je fais consciemment, j'ai construites, il y a quelque chose de construit, et je me trouve avec moi seul, et c'est souvent difficile pour moi de discerner, discerner où aller, de quoi laisser tomber. Ouais, excusez-moi, c'est difficile à...
Un exemple?
Oui, justement. dès que je mets un exemple, je occulte tout le reste. Donc ce n'est pas... C'est lié à l'unité des choses. C'est quoi l'unité en moi? C'est quoi ça? Je me vois plus facilement en unité avec l'extérieur, avec l'environnement, etc. Mais en moi.
Ben oui, et c'est tout l'enjeu, entre guillemets. C'est de revenir à qui es-tu?
Oui.
Si tu vois ça.
Oui, mais je ne vois pas justement.
Je sais.
C'est ça que j'ai. C'est, je suis rien et tout. Et c'est.
Mais
ouais.
C'est vrai ça.
Oui.
Toi, c'est vrai. C'est vrai. Il s'agit d'aller vraiment vers ça. Donc, qui suis-je, quoi? Quelqu'un m'a raconté récemment un truc qui a à voir peut-être avec ça. Un swami indien, mais qui vit aux États-Unis, je crois, qui avait dit, c'est simple la pratique, bien sûr, c'est toujours simple. C'est simple, il s'agit de deux choses. Un, d'identifier ce qu'on n'est pas. Et deux, rester qui je suis. Alors là, ça semble très simple, hein? mais déjà, identifier ce que je ne suis pas, je comprends, parce que, en fait, tu n'es pas Dale, tu n'es pas un homme, tu n'es pas américain, tu n'es pas parisien, enfin, toutes ces choses-là, tu n'es pas ça. C'est vrai. Donc, je comprends ce qu'il veut dire par ça. Identifier ce que je ne suis pas. Mais c'est vaste programme, ça. Hein? C'est... Et,
qu'est-ce qui reste?
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Et donc, après, évidemment, ce qui pointe, le deuxième, c'est que si tu identifies tout ce que tu n'es pas, rester avec ce que tu es. Et je crois qu'il n'a pas dit qui tu es, il a dit ce que tu es. Qui va dérouter un peu plus hein, de ce que... Et ce que tu es, c'est Dieu, l'univers, ce qui est, le divin, ça. Mais tous ces mots ne vont pas, c'est comme ça, on ne peut pas mettre un nom. On dit le gong, mais ce n'est pas ça vraiment. ça peut être qu'expérimenté.
C'est vrai que c'est facile quand on l'expérimente. C'est juste, oh waouh, pourquoi je ne ressens pas ça tout le temps?
Ah oui.
Parce que c'est tellement évident.
Oui.
Peut-être j'essaie trop d'y arriver, en fait.
Ah. Oui. Oui, bien vu, hein, parce que c'est ce qu'on fait aussi. Hein. Et comme on dit, quand on essaie d'y arriver, on va dans l'autre sens.
Oui.
On va dans le sens opposé. C'est vrai. Hein. Et même quand on, tout de suite, on dit, mais pourquoi je ne vois pas ça tout le temps? Déjà, on commence à s'écarter, à s'éloigner. Tandis qu'il s'agit juste de revenir, revenir, revenir. Et le temps, on revient au 27. Temps.
Quoi? 27.
25.
27.
27, oui, donc il fallait qu'on s'arrête.